السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج جن صحابہ کا ذکر ہے ان میں سے پہلا نام ہے حضرت خالد بن قیس کا.
Le tout premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Khalid bin Qais. Khalid bin Qais appartenait au clan Banu Bayada de la tribu Khazraj. Son père se nommait Qais bin Malik et sa mère se nommait Salma bin Haritha. Son épouse se nommait Umm Rabi et lui a donné un fils nommé Abdurrahman. Selon Ibn Ishaq, Khalid bin Qais faisait partie des 70 Ansar ayant participé à la Bayra d'Aqaba. Khalid avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Haris bin Hazama. Il était un Ansari et son nom d'emprunt était Abu Bishr. Il appartenait à la tribu Khazraj et il était l'allié des Banu Abd al-Ashr. Son nom d'emprunt était Abu Bishr. Harith bin Hazama avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, ainsi qu'à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Harith bin Hazama et Iyas bin Bukair. La chamelle du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'égara lors de la bataille de Tabouk. Les hypocrites s'en moquèrent en disant que le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, clame connaître des fils célestes alors qu'il ignore où se trouve sa chamelle. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, a eu connaissance de leur moquerie, il déclara « Je sais uniquement ce à propos de quoi Dieu m'informe. Allah m'a informé où se trouve la chamelle dans la vallée. » C'est un récit que j'ai mentionné auparavant en citant un autre compagnon. Harith bin Khazama était celui à qui le saint prophète Mohammed lui indiqua l'endroit où se trouvait la chamelle afin de la rapporter. Harith bin Khazama décéda en an 40 de l'Hégire à l'époque du califat d'Ali à l'âge de 67 ans. Khunais bin Hudhafa est le prochain compagnon. Abu Hudhafa était son nom d'emprunt. Sa mère se nommait Daifa bint Hizyam. Khunais appartenait à la tribu Banu Sarm bin Amr. Khunais avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed lui ne choisisse Dar al-Arkam comme centre pour les musulmans. Khunais bin Hudhafa était le frère d'Abdullah bin Hudhafa. Khunais était un des musulmans ayant émigré en Abyssinie à deux reprises. Khunais fait partie des tout premiers émigrants. Il logea chez Rafi bin Abdel Munzir quand il arriva à Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Khunais bin Hudhafa et Abu Abs bin Jabbar. Khunais avait participé à la bataille de Badr. Hafsa, la mère des croyantes, était mariée à Khunais bin Hudhafa avant d'épouser le saint prophète Mohammed lui. On en trouve les détails dans l'ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin. Omar avait une fille du nom de Hafsa, et Hafsa était mariée à un fidèle compagnon du saint prophète, que ce soit lui, nommé Khunais bin Hudhafa. Khunais avait participé à la bataille de Badr. Après son retour à Médine, Khunais est tombé malade et il n'a pas pu se remettre de sa maladie et il est décédé. Quelque temps après sa disparition, Omar s'est préoccupé du second mariage de Hafsa. À l'époque, Hafsa avait plus de 20 ans. Dans sa simplicité, Omar a rencontré Uthman bin Affan et il lui a mentionné que sa fille Hafsa était maintenant veuve et que Abu Bakr pourrait l'épouser s'il le souhaitait. Cependant, Uthman a évité le sujet. Par la suite, Omar a parlé à propos du mariage de Hafsa à Abu Bakr. Il lui a proposé la main de sa fille, mais Abu Bakr est lui aussi resté silencieux et n'a pas répondu. Omar était profondément attristé. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed pour le soumettre toute l'affaire. Le saint prophète Mohammed a répondu : Oh Omar, ne t'inquiète pas du tout. Si Allah le veut, Hafsa trouvera un meilleur mari que Uthman et qu'Abu Bakr. Et Uthman aura une meilleure épouse que Hafsa. Le saint prophète Mohammed avait dit cela parce qu'il avait déjà l'intention d'épouser Hafsa et d'offrir la main de sa propre fille Umm Kulthum à Uthman en mariage. Uthman et Abu Bakr étaient conscients de cela, ils étaient au courant de cela et c'est pour cette raison qu'ils avaient rejeté la proposition de Omar. Quelque temps après, le saint prophète Mohammed maria sa fille Umm Kulthum à Uthman. Et par la suite, le saint prophète, paix soit sur lui, envoya une proposition à Omar pour lui demander la main de sa fille. Qu'est-ce que Omar aurait pu demander de plus? Il accepta très volontiers cette proposition. Et au cours du mois de Charban, en l'an 3 de l'Hégire, Hafsa s'est mariée au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et faisait partie de son ménage. Après le mariage, Abu Bakr dit à Omar, « Peut-être étais-tu triste à cause de moi. Peut-être que tu étais triste en raison du fait que j'étais silencieux. Mais en fait, j'étais déjà au courant de l'intention du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais je ne pouvais pas révéler son secret sans son autorisation. » Bien sûr, si le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'avait pas eu l'intention de faire cette proposition, j'aurais très volontiers épousé Hafsa. La sagesse de ce mariage est que Hafsa était la fille d'Omar, qui pourrait être considérée comme le compagnon le plus éminent après Abu Bakr. Omar faisait partie des amis les plus intimes du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Par conséquent, afin de renforcer davantage les relations mutuelles et afin d'apaiser le chagrin de Omar et de Hafsa qu'ils avaient subi suite à la disparition prématurée de Khunais bin Hudhafa, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, a estimé qu'il était approprié de se marier avec Hafsa. Selon un récit, Khunais bin Hudhafa était blessé lors de la bataille d'Uhud et il est décédé des suites de ses blessures à Médine. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait dirigé sa prière funéraire. Khunais a été enterré dans le cimetière Jannatul Baqi à côté d'Othman bin Ma'zoun. Haritha bin Norman est le prochain compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah. Haritha bin Norman était un Ansar. Il appartenait au clan Banu Najjar de la tribu Khazraj. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé et à toutes les campagnes en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il faisait partie des grands compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. La mère de Haritha bin Norman se nommait Jada bint Ubaid. Abdullah, Abdurrahman, Sauda, Omar, Oumé Hisham étaient ses enfants qui étaient issus de son mariage avec Oumé Khalid. Oumé Kulthoum, un autre de ses enfants, avait pour mère une femme des Banu Abdullah bin Ratfan. Amtullah, un autre de ses enfants, avait pour mère une femme des Banu Jundou. Selon un autre récit cité par Ibn Abbas, Haritha bin Norman est passé à côté du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui se trouvait en cet instant en compagnie de l'ange Gabriel. Mais Haritha n'a pas salué le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Selon un autre récit plus bref, Haritha bin Norman avait présenté ses salutations et l'ange Gabriel lui avait répondu. Mais selon un autre récit plus détaillé d'Ibn Abbas, Haritha bin Norman est passé à côté du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète était en compagnie de l'ange Gabriel. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui murmurait quelque chose. Haritha bin Norman n'a pas présenté ses salutations et l'ange Gabriel en a demandé la raison. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé plus tard à Haritha la raison pour laquelle il n'avait pas présenté ses salutations. Haritha a répondu : Je vous ai vu murmurer quelque chose à quelqu'un à côté de vous. Et je n'ai pas voulu vous couper la conversation en vous saluant. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a demandé : As-tu vu cette personne ? As-tu vu celui qui était à côté de moi ? Khalifa a répondu : Oui. Le saint prophète a commenté : Il s'agissait de l'ange Gabriel qui disait : Si cette personne me salue, eh bien je lui répondrai. L'ange Gabriel a déclaré qu'il faisait partie des 80 personnes. Le saint prophète, paix soit lui, a demandé à Gabriel le sens de cette phrase. Il a répondu qu'il s'agissait des 80 musulmans qui n'avaient pas flanché à vos côtés lors de la bataille de Hunayn. Le saint prophète, paix soit lui, s'est imposé la responsabilité de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants au paradis. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en a informé Haritha. Aïcha, radiyallahu anha, déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait un grand respect à l'égard de Haritha. Selon elle, Haritha, d'entre tous, traitait le mieux sa mère. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, disait que tout le monde devait adopter pareille vertu. Haritha bin Norman avait perdu la vue vers la fin de sa vie. Il avait perdu sa vue et il avait attaché une corde du lieu où il priait jusqu'à la porte de sa chambre. Il gardait avec lui un panier de dattes et quand un mendiant frappait à sa porte ou quand un visiteur venait le saluer, il se guidait vers la porte de son lieu de prière grâce à la corde et il offrait aux visiteurs des dattes. Les membres de sa famille disaient qu'il pouvait le faire à sa place et qu'il ne devait pas se mettre en difficulté, étant donné qu'il avait perdu la vue. Mais Haritha répondit : J'ai entendu le saint prophète Mohammed, paix soit lui, déclarer qu'aider les pauvres protège d'une mauvaise fin. Selon les récits, Haritha bin Norman disposait de plusieurs maisons dans les environs de celle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il avait plusieurs maisons et en cas de besoin, il mettait ces maisons à la disposition du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est-à-dire qu'il offrait une maison en cadeau suite à un mariage ou pour quelque autre raison. Il faisait don de ses maisons. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, demanda à Ali de se trouver une maison après son mariage avec Fatima. Ali a cherché une demeure et il y a pris Fatima pour épouse. Par la suite, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a dit à Fatima : Je souhaite que tu viennes vivre tout près de chez moi. Fatima a conseillé au saint prophète, paix soit lui, ou il a requis au saint prophète, paix soit lui, de demander à Haritha de déménager de la maison dans laquelle il réside et de leur offrir la maison dans laquelle il réside. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a répondu : Haritha a déjà déménagé plusieurs fois pour nous. Il nous a offert ces maisons qui sont toutes proches. J'ai honte de lui demander de déménager de nouveau. Quand Haritha en a eu connaissance, il a déménagé dans une autre maison et il s'est présenté au saint prophète Mohammed, paix soit lui, en lui disant ceci : « Au prophète d'Allah, j'ai entendu que vous souhaitez que Fatima vienne vivre tout près de chez vous. Je mets à votre disposition mes maisons qui sont les plus proches de chez vous dans le quartier de Banu Najjar. Mes biens et moi-même appartiennent à Allah et à son prophète. Prenez ce que vous souhaitez de ma part. La propriété que vous prendrez me sera plus chère que celle que vous me laisserez. » Le saint prophète, puis ça lui a répondu : « Tu dis vrai. Et Allah te bénira. » Par la suite, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé à Fatima d'élire domicile dans la maison qu'occupait Haritha. Dans la Sirat Khatam al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad évoque ces faits en ces termes. Il déclare, jusqu'à présent, Ali vivait peut-être avec le saint prophète Mohammed lui, dans un appartement construit à côté de la mosquée. Cependant, une résidence séparée était maintenant requise où mari et femme pouvaient résider après le mariage. Par conséquent, le saint prophète lui, a ordonné à Ali de trouver un lieu où tous les deux pourraient résider. Ali a trouvé provisoirement une maison où il a pris Fatima pour épouse. Le premier jour après les noces, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est rendu dans leur nouveau domicile et a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Et il a prié, puis il en a saupoudré Fatima et Ali en répétant cette prière. Allahumma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma naslahuma. Ô mon Dieu, bénis leur relation mutuelle, bénis leur relation avec les autres et bénis aussi leur progéniture. C'est-à-dire de bénir leur relation mutuelle, de bénir leur relation dans la société et de bénir aussi leur descendance. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, laissa le nouveau couple et retourna chez lui. Par la suite, un jour, lorsque le saint prophète, paix soit lui, est venu rendre visite à Fatima, elle lui a rappelé que Haritha bin Norman Ansari possède quelques maisons et il lui a requis de demander à Haritha de déménager dans une autre maison. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré, il a déjà quitté de nombreux foyers pour notre bien. À présent, je suis gêné de lui demander de quitter sa maison. D'une manière ou d'une autre, quand Haritha en a eu connaissance, il s'est précipité au saint prophète et il a déclaré au prophète d'Allah, « Tout ce que je possède vous appartient. Par Dieu, ce que vous accepterez de ma part sera plus cher à mes yeux que celle que je possède. » Ce fidèle compagnon a insisté d'abandonner une de ses maisons et l'a présentée au saint prophète Mohammed bin Sassoui. Par la suite, Ali et Fatima ont déménagé dans cette maison. Aïcha radhiyallahu anha relate que le jour de la bataille de Hunayn, le saint prophète Mohammed bin Sassoui a demandé à ses compagnons qui assurera la sécurité ce soir. Haritha bin Norman s'est levé lentement. D'ailleurs, il n'était jamais pressé dans tout ce qu'il accomplissait. Les compagnons ont dit au saint prophète Mohammed paix soit lui que la modestie a ramolli Haritha, d'où la lenteur avec laquelle il se lève. Il aurait dû se lever rapidement, croyait-il. Le saint prophète a répondu, ne dites pas cela, la modestie n'a pas ramolli Haritha. Au contraire, la modestie l'a vivifié. Haritha bin Norman est décédé à l'époque de l'émir Muawiyah. Le prochain compagnon se nomme Bashir bin Saad. Abu Norman était son nom d'emprunt. Saad bin Tha'laba était son père. Il était le frère de Simak bin Saad et il appartenait à la tribu Khazraj. Sa mère s'appelait Unaysa bint Khalifa. Et sa femme se nommait Amra bint Rawaha. Bashir bin Saad savait écrire même à l'époque de l'ignorance, quand très peu d'Arabes maîtrisaient cet art. Bashir bin Saad avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba en compagnie de 70 Ansar et il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du fossé et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Au cours du mois de Charban en l'an 7 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait nommé Bashir bin Saad à la tête d'un détachement de 30 personnes et il les avait envoyés pour une expédition contre Falak bin Murra. La bataille fut féroce, Bashir bin Saad s'est battu vaillamment et il a reçu un coup d'épée à la cheville, et l'on croyait qu'il était tombé à martyr. L'ennemi l'avait abandonné, croyant qu'il s'était évanoui ou qu'il était peut-être mort. Le soir, Bashir bin Saad s'est rendu à Fadak et il a logé pour quelques jours dans la maison d'un juif avant de retourner à Médine. Au cours du mois de Shawwal, en l'an 7 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui envoya Bachir bin Sa'd en compagnie de 300 personnes. Il les envoya dans la région de Jawar, qui est une région située entre Fadak et la vallée d'El-Qura. Des individus appartenant à la tribu Ratfan s'étaient réunis en compagnie de Naïna bin Hanas et ils complotaient contre l'islam. Bachir bin Sa'd les a combattus et il les a dispersés. Les musulmans ont tué certains d'entre eux et ils ont emprisonné d'autres et ils sont retournés avec les butins. L'ennemi s'était réuni afin de livrer bataille et de nuire aux musulmans. C'est la raison pour laquelle les musulmans avaient mené cette campagne contre eux. Les butins ou les massacrés n'étaient pas leur objectif. Comme mentionné dans mon précédent sermon, le saint prophète, paix soit lui, était fort en colère contre des compagnons qui avaient lancé une attaque inopportune contre des personnes, une attaque qui n'avait pas sa raison d'être. Norman bin Bashir, le fils de Bashir bin Sa'd, relate: mon père m'a présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et mon père a dit au saint prophète, paix soit sur lui, qu'il m'avait offert un esclave. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a demandé: est-ce que tu en as offert à tous tes fils? Bashir bin Sa'd a répondu: non, j'en ai pas offert à mes autres fils. Le saint prophète, paix soit sur lui, a ajouté: bien, en ce cas, reprends cet esclave que tu as offert à Norman. Selon le recueil d'Al-Bukhari, Norman bin Bashir relate: mon père m'a offert quelques biens. Ma mère, Amra bint Rawaha, lui a dit qu'elle ne serait pas satisfaite tant qu'il ne prenait pas le saint prophète Mohammed, paix soit lui, comme témoin de ce don. Mon père en a fait la requête au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé à mon père s'il avait offert la même chose à ses autres enfants. Mon père a répondu négativement. Le saint prophète, paix soit lui, lui a conseillé ceci: crains Allah et sois juste envers tous tes enfants. Et mon père est retourné et il a repris ce qu'il m'a offert. Selon le récit de Sahih Muslim, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré: ne me prends pas pour témoin car je n'atteste pas d'un acte injuste. Hazrat Muslim Aoud Aradutalanhu a présenté une très belle explication de ce hadith ou au sujet de pareil cadeau. Il déclare: cette directive du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, selon moi, concerne des dons importants et pas des objets ordinaires. Par exemple, si je suis en train de manger une banane, je peux l'offrir à l'enfant qui est en ma présence et pas à celui qui est absent. Les hadiths évoquent le don de chevaux ou d'autres biens onéreux ou des esclaves. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait dit à quelqu'un: offre un cheval à chacun de tes fils ou n'en offre à personne. La raison en est que les chevaux coûtaient très cher chez les Arabes à l'époque, ainsi que les esclaves. Les esclaves et les chevaux faisaient partie de leur patrimoine. Cela concernait d'autres biens onéreux. Cette interdiction ne concerne que cette catégorie de biens ou les chevaux auxquels les Arabes accordaient une grande valeur. Cet ordre concerne ces objets susceptibles d'engendrer de l'animosité si l'on en offre à un enfant et pas à un autre. Cela peut engendrer de l'antipathie pour l'autre dans leur cœur. Cet ordre ne concerne pas les objets ordinaires. Si un enfant nous accompagne au magasin, nous pouvons l'offrir un tissu pour son manteau. Ceci est tout à fait permis. L'on ne peut insister qu'on ne peut lui offrir ce tissu tant qu'on n'en offre pas à tous ses frères, à tous ses autres enfants. Nous recevons des cadeaux à la maison et l'enfant présent devant nous nous demande de le lui offrir. En lui offrant ce cadeau, cela ne signifie pas qu'on en prive les autres. Car ils auront leur tour quand nous recevrons d'autres cadeaux. Cet ordre ne concerne pas des objets ordinaires, mais des dons importants qui peuvent engendrer de la rancune et de la haine si l'on fait preuve de partialité. Hadrat Moussa Maoud ajoute, « Quand un de mes enfants atteint l'âge adulte, eh bien, je lui offre un terrain afin qu'il puisse en déduire sa part d'al-wasiya. » L'on pourra offrir quelque chose dans le fonds d'al-wasiya si l'on possède des biens. Cela ne signifie guère que je prive les autres enfants, car ils auront leur part lorsqu'ils seront majeurs. L'on peut faire des dons qui ne sont pas onéreux. Le Coran recommande de reprendre le cadeau offert à autrui s'il est susceptible d'engendrer des ressentiments. Les parents doivent aussi éviter pareil péché. Hadrat Moussa Maoud radhiyallahu anhu avait commenté sur un cas d'un don présenté par le mufti. Hadrat Moussa Maoud radhiyallahu anhu a déclaré: nous devons nous référer au Saint-Coran au sujet du partage des biens. Le Saint-Coran n'évoque pas pareil don, mais le Saint-Coran évoque les biens légués en héritage et le Saint-Coran a fixé les droits des ayants droit. Certains négligent ces principes lorsqu'ils partagent leurs biens et cela finit par des procès et cela crée aussi des ressentiments entre les héritiers. Hadrat Moussa Maoud ajoute, l'on ne peut pas changer les parts fixées par le Saint-Coran. Quelle est la sagesse derrière cette répartition des biens? Pourquoi tous les fils doivent-ils recevoir des parts égales? Pourquoi, lorsqu'un fils s'est plaint, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a-t-il dit au père qu'il devait lui offrir un cheval, tout comme il en a offert à son autre fils, ou de le reprendre de ce dernier? La sagesse derrière ce commandement est qu'il incombe aux parents d'être justes envers tous leurs enfants et de les aimer également, tout comme les enfants doivent obéissance à leurs parents. Si les parents enfreignent ce commandement et s'ils font preuve de partialité, eh bien, les enfants pourront peut-être respecter leurs devoirs envers leurs parents, mais ils ne le feront pas avec plaisir. Mais ils considéreront ce devoir envers leurs parents comme une amende. C'est-à-dire qu'ils serviront leurs parents pour la simple raison qu'Allah leur demande de le faire, mais ils ne le feront pas avec plaisir. Pareil comportement de la part de certains parents sont nuisibles à leurs enfants, et cela détruit l'amour des enfants pour leurs parents. C'est pour cette raison que l'islam a interdit pareille partialité, mais il n'est pas interdit d'offrir à d'autres personnes que ses enfants des biens en héritage ou pardon pour la cause religieuse. En sus de ses enfants, l'on peut léguer des biens ou faire des dons à des héritiers légitimes, car le légateur lui-même sera privé de ses biens. Il ne prive pas uniquement ses enfants, il perd lui aussi la jouissance de ses biens car il offre cela dans la voie de Dieu. Ainsi, les enfants n'en seront pas attristés. Or, il lui est interdit de léguer ses biens à un enfant en particulier ou de lui faire un don en particulier. Il incombe d'assumer certaines responsabilités temporaires. Voici un exemple. Quelqu'un a quatre fils et il a financé la maîtrise de l'aîné, tandis que les autres sont dans des classes inférieures. Et subitement, le père a perdu son travail ou ses revenus ont diminué, affectant ainsi le financement des études de ses benjamins. L'on ne peut objecter qu'il a eu un traitement préférentiel à l'égard de l'aîné. C'était là un événement fortuit. Il avait décidé de financer les études de l'aîné, ensuite de financer les études de ses frères à tour de rôle jusqu'à ce qu'ils terminent leur maîtrise ou dans la mesure de leur capacité. Il avait réparti ses responsabilités en accord aux nécessités de l'époque. Ses intentions étaient bonnes. Il se disait qu'il allait accomplir telle tâche avant d'entreprendre un autre quand la situation a changé et il n'a pas pu accomplir son désir. Si par contre un père offre à son fils aîné qui s'est marié 2000 roupies pour qu'il lance un business et qu'il n'en offre pas à son deuxième fils lorsqu'il a des enfants, ce sera là un acte interdit de sa part et il fait preuve de partialité. Ces dons et ces biens particuliers sont des questions de jurisprudence en tout cas, et l'on doit avoir cela en tête lorsqu'on partage ses biens, ou lorsqu'on fait des dons, ou lorsqu'on fait son testament. La fille de Bashir bin Saad relate ceci. Lors de la bataille du fossé, ma mère a mis quelques dattes dans un tissu et m'a demandé de l'offrir à mon père et à mon oncle en leur disant que c'était leur repas du matin. La fille a dit que je suis partie avec les dattes à la recherche de mon père et de mon oncle quand je suis passée à côté du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, m'a dit « Oh là, ma fille, que tiens-tu là dans la main ?» J'ai répondu « Ce sont des dattes que ma mère m'a demandé d'offrir à Bashir bin Saad, mon père, et à mon oncle, Abdullah bin Rawaha. » Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, m'a demandé de lui offrir les dattes que j'ai remises dans ses mains. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a posé ses dattes sur un tissu et il les a recouvertes d'un autre tissu. Et il a demandé à quelqu'un d'appeler les gens pour le repas. Ainsi, tous ceux qui creusaient le fossé se sont réunis et ils ont commencé à manger les dattes qui se sont multipliées tant et si bien que lorsque les gens en avaient mangé, les dattes tombaient des coins du tissu. Ainsi, ce repas a été amplement béni. En l'an 12 de l'Hégire, lors du califat d'Abu Bakr, Bashir bin Saad se joignit à l'armée de Khalid bin Walid lors de la bataille de Ayn al-Tamr et il est tombé en martyr lors de cette bataille. Ayn al-Tamr est un lieu qui est situé tout près de Koufa. Les musulmans remportèrent là-bas une bataille en l'an 12 de l'Hégire au cours du califat d'Abu Bakr. Au cours du mois d'Al-Qadha en l'an 7 de l'Hégire, quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui accomplit l'Umra Al-Qadha, il envoya en avant les armes qu'il confia à Bashir bin Saad. Voici des explications sur l'Umra Al-Qadha. Les musulmans n'avaient pas pu accomplir l'Umra l'année du pacte de Hudaybiyah. Selon une condition du pacte, le saint prophète pouvait accomplir l'Umra l'année d'ensuite et résider à la Mecque durant 3 jours. En accord à cette condition, il décida d'accomplir l'Umra au cours du mois de Dhul-Qa'dah en l'an 7 de l'Hégire. Et il annonça que tous ceux qui étaient présents à Hudaybiyah l'année précédente devaient l'accompagner. Ainsi, tous ceux qui étaient présents l'ont accompagné, excepté ceux qui étaient tombés en martyr lors de la bataille de Khaybar ou ceux qui étaient décédés. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti accomplir l'Umra. Mais pourquoi avait-il envoyé les armes en avance avant de partir pour l'Umra? La raison était que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'avait pas confiance que les mécréants allaient respecter leurs promesses. C'est pour cette raison qu'il s'était préparé au combat en prenant les armes qu'il pouvait emmener. Et en partant de Médine, il nomma Abu Ghaffari, le chef de Médine, son suppléant, et il partit vers la Mecque avec 2000 musulmans, et parmi ces 2000 musulmans se trouvaient 100 cavaliers, et il avait aussi apporté 60 chameaux pour le sacrifice. Les mécréants étaient apeurés lorsqu'ils ont su que le saint prophète, paix soit sur lui, venait à la Mecque armé et avec son matériel de guerre. Ils ont envoyé quelques individus pour s'enquérir de la situation à Marra Zahran. Les émissaires mekkois ont rencontré Mohammed bin Maslama, qui était le chef des cavaliers. Mohammed bin Maslama a rassuré les mécréants que le saint prophète Mohammed bin Sassa lui entrera à la Mecque sans armes, comme stipulé dans le traité. Les mécréants étaient rassurés d'entendre la nouvelle. Lorsque le saint prophète Mohammed bin Sassa lui arriva au lieu du Yajiz, situé à environ 8 milles de la Mecque, eh bien, il laissa là-bas les armes sous la garde de Bashir bin Saad et de quelques compagnons. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est rendu à la Mecque avec une seule épée. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avança vers l'enceinte de la Kaaba avec ses compagnons en disant « Labbaik ». Lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, entra dans la cour de la Kaaba, certains mécréants, bouillants de rage, n'ont pas pu endurer la scène des musulmans faisant la tawaf et ils sont partis se réfugier sur les collines avoisinantes. Mais quelques mécréants s'étaient réunis à la Darun Nadwa, leur lieu de conseil. Ils ont écarquillé les yeux et regardé ces musulmans ivres d'une cité de Dieu qui faisaient le tour de la Kaaba. Les mécréants se sont dit, « Quel tawaf ces musulmans vont-ils accomplir ? La faim et la fièvre de Médine les a anéantis. C'est un peuple qui est très affaibli. » Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, porta son châle d'une telle manière que son épaule et son bras droit étaient apparents et il déclara. Il déclara, « Ô Dieu, répands ta grâce sur celui qui manifestera sa force devant ses mécréants. » Les mécréants proféraient des moqueries qui arrivèrent jusqu'aux oreilles du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, demanda aux compagnons de montrer leur force aux mécréants en n'exposant pas leur corps affaibli, mais leur corps bien portant et solide, ainsi que leurs épaules larges. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, accompagné de ses compagnons, fit les trois premiers tours de la Kaaba en remuant les épaules et en marchant vigoureusement. Ceci est appelé Ramad en langue arabe. Cette pratique est toujours en vigueur aujourd'hui et elle perdurera jusqu'au jour dernier. Toute personne qui fait la tawaf pratique le Ramad pendant les trois premiers tours de la Kaaba. Combien d'umra le saint prophète avait-il accompli? Selon un hadith d'Al-Bukhari, un rapporteur rapporte qu'il demanda à Anas combien d'umra le saint prophète avait-il accompli. Anas répondit que le saint prophète avait accompli quatre umra. L'umra de Hudaybiyah, qu'il avait accompli lors du mois de Zulqada. Il est compté parmi les umrahs, bien qu'il n'a pas été accompli, mais comme les musulmans avaient fait des sacrifices sur place et qu'ils avaient rasé leur tête. C'est pour cette raison que certaines personnes comptent cela comme une umrah. Lorsque les mécréants avaient arrêté le saint prophète, paix soit sur lui, lors du pacte de Hudaybiyah, constitue le premier umrah. Ensuite, il y a eu un deuxième umrah l'année d'après, lors du mois de Dhul-Qa'da. L'umrah n'a pas pu être accompli lors de la première année, excepté les sacrifices des animaux. Et la deuxième année, lorsqu'il s'est réconcilié avec les mécréants, il a accompli l'umrah de Dhul-Qa'da. Ensuite, on rapporte qu'il a accompli un autre umrah lorsqu'il a partagé les butins de guerre. On pense qu'il s'agit des butins de la bataille de Hunayn. Le rapporteur lui avait également accompli combien de hajj avait accompli le saint prophète. Anas a répondu qu'il n'avait accompli qu'un seul pèlerinage et il avait aussi profité de ce hajj pour accomplir l'umrah. Ainsi, certains disent qu'il avait accompli quatre umrahs, d'autres disent qu'il avait fait à deux reprises. Bashir bin Saad était le premier des Ansar à prêter allégeance à Abu Bakr le jour de Saqifa Banu Sarda. Qu'est-ce que le Saqifa Banu Sarda? Il s'agissait de l'endroit où les gens des Banu Khazraj avaient pour coutume de s'asseoir à Médine. Il s'agissait peut-être d'une chambre ou d'un endroit couvert en conformité à leur époque. Après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les gens des Banu Khazraj avaient organisé une assemblée à Saqifa Banu Sarda à Médine. ils discutaient à propos de la succession du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Omar fut informé à propos de la tenue de cette conférence et on se préoccupa des troubles en raison des hypocrites des Ansar. Sur ce, Omar Farouk emmena Abu Bakr Siddiq à Saqifa Banu Sa'd. En arrivant sur place, ils ont compris que les gens des Banu Khazraj disaient que la succession du saint prophète paix soit sur lui revenait aux Banu Khazraj et que les Banu Aws s'y opposaient. Les deux tribus de Médine s'étaient opposées. Un compagnon Ansari a rappelé cette parole du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui avait déclaré que les commandants viendront des Quraishites. Cela a eu de l'effet sur le cœur de la plupart des gens qui s'étaient impliqués dans cette dispute. Les Ansar ont retiré leur requête et tous ont fait la baïra sur la main d'Abu Bakr, le reconnaissant comme calife. Mais en dépit de cela, pendant 3 jours, Abu Bakr Siddiq a annoncé qu'ils étaient libres concernant la baïra de Saqifa Banu Sa'd et que si une personne avait des objections à cet égard, pouvait le faire. Mais personne n'a objecté. Ceci est tiré de l'ouvrage du docteur Hamidullah. On trouve aussi un récit plus détaillé à ce propos. Lorsque cet événement a eu lieu et qu'il y a eu ces rassemblements, les hypocrites échauffaient les esprits des Ansar et Omar est venu en compagnie d'Abu Bakr. À son arrivée, les Ansar ont fait part de leur opinion. En réponse, Abu Bakr Siddiq leur a fait également part de son opinion. Tout ce déroulé démontre que les Ansar et les Muhajirines n'étaient soucieux que de l'intérêt de l'islam. Les hypocrites, quant à eux, ne cherchaient qu'à fomenter le désordre. À l'opposé, les croyants parmi les Ansar et les autres ne pensaient qu'à l'intérêt de l'islam. Et ils savaient qu'il était essentiel de choisir un calife ou un imam, qu'il soit parmi les Ansar ou parmi les Muhajirines. Ils souhaitaient l'établissement d'un califat après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ils étaient sincères dans leurs souhaits. Ils ne souhaitaient pas passer ne serait-ce qu'une seule journée sans la Jamaat, sans la communauté et sans un émir. Ainsi, l'une des propositions était d'élire un émir de parmi les Ansar et l'autre était d'élire l'amir de parmi les Muhajirines, car hormis ces deux groupes, l'Arabie n'acceptera pas la gouvernance de personne d'autre. La troisième proposition était d'élire deux émirs, un parmi les Ansar et un autre parmi les Quraishites. Les Muhajirines ont dit aux Ansar qu'il est important d'élire l'émir parmi les Quraishites. Et pour étayer leur argument, ils ont présenté cette prophétie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui concernant l'établissement du califat, qui devait être choisi parmi les Quraishites, que j'ai mentionné. Il avait déclaré que les imams feront partie des Quraishites. En s'adressant aux Ansar, Abu Ubaida bin al-Jarrah a déclaré « Aux Ansar de Médine, vous êtes ceux qui étaient toujours le plus en avant pour servir la religion. Aujourd'hui, ne soyez pas de ceux qui soient en train de la corrompre. Ne soyez pas de ceux qui portent préjudice à cette religion et ne déclarez pas que l'émir doit être élu parmi les Ansar ou qu'il doit y avoir deux émirs. » Les Ansar étaient très affectés par ce message et Bashir bin Saad se leva. Bashir bin Saad, qui était parmi eux. Et il s'est adressé aux Ansar. Il a dit, « Ô Ansar, par Dieu, certes, nous sommes supérieurs aux Muhajirines concernant le djihad que nous avons mené contre les mécréants, mais nous l'avons fait uniquement pour le plaisir de Dieu, en obéissance au saint prophète et pour la réforme de notre âme. Il ne nous sied guère de faire preuve de fierté maintenant et qu'en échange du service rendu à la religion, nous cherchions des récompenses empreintes de l'odeur nauséabonde des choses mondaines. Notre récompense se trouve auprès d'Allah et il nous suffit. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, faisait partie des Quraishites et le califat leur appartient de droit. qu'Allah nous préserve de toute dispute avec les Qurayshites ou Ansar. Ayez la crainte de Dieu et ne vous opposez pas aux Muhajirin. Après ce discours, Habab bin Munzir a commencé à parler à propos de l'importance des Ansar. Mais ensuite, Omar a repris en main la situation. Je vous présente en bref l'événement qui s'est passé. Il a pris la main d'Abu Bakr et il lui a dit d'accepter leur allégeance. Et il fit aussitôt la bayra, c'est-à-dire il prêta allégeance à Abu Bakr et dit « Oh Abu Bakr, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, vous avez ordonné de diriger la prière et vous êtes à présent le calife d'Allah. Nous faisons votre bayra car vous étiez le plus aimé de nous tous par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Après Omar, Abu Ubaida bin al-Jarrah a fait la bayra. Ensuite, de parmi les Ansar, Bashir bin Saad était le premier à faire la bayra. Il fut suivi par Zayd bin Thabit Ansari, qui a agrippé la main d'Abu Bakr. Il s'est adressé aux Ansar et il leur a demandé de lui prêter allégeance. Ainsi, les Ansar ont fait la bayra. Cette bayra est connue dans la littérature islamique comme la Bayra et Sakifa ou Bayra Khas. Abu Masoud Ansari déclare « Une fois, nous étions dans l'assemblée de Sa'd bin Ubada et le saint prophète, paix soit sur lui, est venu nous rendre visite. Bashir bin Sa'd a demandé « Ô envoyé d'Allah, Allah nous a ordonné d'envoyer des salutations sur vous. Comment devons-nous le faire ?» Les rapporteurs déclarent que le saint prophète, paix soit sur lui, garda le silence face à cette question. Il resta silencieux pendant un long moment, au point où les rapporteurs ont dit qu'il regrettait la question qu'il avait posée. Ensuite, le saint prophète a déclaré « Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim » Fil alamin, innaka hamidu majid. Et il a déclaré, envoyez vos salutations comme cela vous a été enseigné. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Wa barik wa salim, innaka hamidu majid. Je termine ici la mention des compagnons. Je souhaite faire une requête de prière. Ces derniers jours, les préparatifs de la Jalsa Salana du Bangladesh étaient en cours dans une nouvelle ville appelée Ahmednagar. Mais les ulémas, ou on doit dire les pseudo-ulémas et leurs compères ont soulevé un tollé. Ils ont demandé au gouvernement d'interdire la tenue de la Jalsa, mais lorsque l'État a refusé leur requête, les protestants ont mené des attaques contre les foyers et les commerces des Ahmadis. Ils ont brûlé quelques maisons, ils ont pillé et brûlé certains commerces. Des Ahmadis ont été blessés. Priez qu'Allah améliore la situation et qu'Allah accorde également une guérison rapide à ceux qui ont été blessés et qu'il leur permette de couvrir leurs pertes et qu'il leur permette également d'organiser leur Jalsa en paix lorsque la nouvelle date sera décidée pour sa tenue. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Mme Siddika Begum Sahiba qui habitait à Duniapur au Pakistan. Elle était la mère du missionnaire en chef d'un pays de l'Amérique du Sud, M. Laik Ahmad Mushtaq. Elle était aussi l'épouse de Cheikh Muzaffar Ahmad. Elle est décédée le 1er février à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier Ahmadi de la famille était son grand-père, Cheikh Mohammed Sultan, qui avait embrassé l'Ahmadi à l'âge de 24 ans en l'an 1897. La défunte s'était mariée le 28 août 1964 et toute sa vie, elle a vécu comme une épouse exemplaire. En dépit de ses revenus modestes, elle a mené une vie respectable et s'est occupée du mariage de ses enfants et même du mariage de ses beaux-frères et de ses belles-sœurs. Elle donnait toujours préséance au bien-être des autres sur le sien. Elle était régulière dans ses prières, dans ses jeûnes et dans ses supplications. Elle était humble et conviviale. Elle était de nature simple et soucieuse des pauvres. C'était une femme pieuse et sincère. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Elle a enseigné le Saint-Coran à des enfants ahmadis et non ahmadis. à ses frais, en faisant appel à un Hafiz, elle a fait mémoriser le Saint-Coran à l'une de ses filles et à deux de ses fils. Elle avait un grand amour pour le Saint-Coran. Elle a servi en tant que présidente de la Lajna à Duniapur, ainsi que secrétaire des finances et secrétaire de la publication. Elle avait une relation très proche avec le califat. Elle était membre du système d'Al-Wasiya. Elle laisse derrière elle son mari, ses deux filles et cinq fils. Deux de ses fils ont dédié leur vie pour la cause de Dieu. L'un de ses fils, Laïc Ahmed Mouchtaq, est missionnaire en chef du Suriname en Amérique du Sud. Il n'a pas pu se rendre au Pakistan après le décès de sa mère. Son deuxième fils, Mohamed Walid Ahmed, est aussi missionnaire. Il travaille au Pakistan où il sert la communauté. L'un de ses beaux-fils est Mohamed Khalid Saeb. Il est missionnaire et il sert à Rabwa dans le département Isla Oishad central. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accepte leurs prières en sa faveur.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر